ça me fait plaisir qu'on se fasse une petite balade en forêt tous les deux. Ben, mais pourquoi que tu prends le poste avec toi ?
On va quand même pas louper la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Ils sont là, pas à la télé, pas sur une affiche collée de travers, sur un arrêt de bus. Ils sont là, devant moi, en vrai. Deux silhouettes, deux présences, un nom de groupe qu'on dirait venu d'un roman de gare ou d'un rêve post-rock. The Elmas. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus sur scène ou croisés sur votre route, mais je peux vous dire une chose, ce sont des gens qui font du bruit avec du silence, qui fabriquent des chansons comme on fabrique des nuits blanches avec des éclats, des secousses, des mots qui piquent les côtes et une tendresse qu'on planque mal. Ce midi, on ne reçoit pas un groupe, on reçoit un vertige, un son, un endroit d'eux qu'ils viennent déposer ici, dans ce studio, comme un chien dépose un os dans le jardin. Sauf qu'à la place de l'os, il y a un EP, et à la place du jardin, il y a vous, auditeurs, vous qui écoutez, peut-être au fond de votre lit, peut-être sur la route du boulot, peut-être juste pour ne pas être seul. Bienvenue dans la JT du local, Ninon et Kevin sont à mes côtés. Bonjour à tous les deux, et merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour et merci de cette belle présentation.
En seconde partie d'émission, ce sera notre reportage Pensée locale de la semaine. On continue de se pencher sur la problématique de la gestion de l'eau en Pays de la Loire. Mais cette fois, rendez-vous ici donc en Mayenne. Nous parlerons racines, celles qu'on plante dans les sols pour mieux préserver l'eau. Direction changée pour découvrir la luzerne, culture d'avenir et de bon sens avec le directeur de la coopérative Daisy West. Et puis pour refermer cette émission, on retrouvera Soizic avec sa chronique, un autre. Notre écho de l'écho, une manière d'attraper l'actualité autrement, de la secouer un peu, de l'interroger sans jamais la survoler. Vous la connaissez bien, avec exigence et clarté, et ce petit quelque chose qui éclaire sans jamais asséner. Et puis je ne suis pas seule dans ce studio, Yann, Titouan et Maxime sont là, fidèles au poste, un peu en retrait aujourd'hui, mais ne vous y trompez pas, ils fourbissent leur micro. On les retrouve dès demain et surtout après-demain pour une émission spéciale en direct du village des Trois Éléphants à 18h15 et même à partir de 18h vendredi. Autant vous dire qu'on vous prépare de belles choses dans la poussière et l'ambiance du village, promenade Anne d'Allègre à Laval. Alors bonjour à tous les trois déjà, j'espère que vous allez bien et bonjour à toi auditeur de l'autre radio qui passe par là, par habitude ou par hasard. Je suis Margot et je vous le disais, les invités de l'agité du local aujourd'hui sont Ninon et Kevin du groupe The Elmas. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui en studio, peut-être pour commencer, pour vous découvrir, vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce groupe The Elmas ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ensemble ici en Mayenne?
La genèse du groupe, c'est vraiment Kevin et moi, puisqu'on avait des groupes dans d'autres vies, on va dire plus jeunes. Voilà, on a longtemps fait de la musique chez nous, autour de notre bar de cuisine. Et puis à un moment, on s'est dit, ce serait peut-être bien que cette musique, elle sorte de là et qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs, si on l'a partagée en tout cas, ouais. Et si les gens reçoivent le message, c'est ça.
C'est ça.
Alors, d'où vient le nom The Elmas ? Est-ce qu'il y a une signification particulière pour vous ?
Alors, en fait, le nom du groupe vient du prénom de nos enfants. Voilà, c'est une contraction du prénom de nos enfants. Et en fait, après vérification quand même, on s'est aperçu que ça voulait dire diamant en turc.
Oh, ok.
Donc voilà, le mot était tout de suite choisi et trouvé.
Alors, votre son navigue entre post-punk, mélancolie et énergie brute. Comment vous décririez votre univers musical à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore ?
On est vraiment un peu, on est au croisement de plusieurs mouvements musicaux. On est très fan de métal, enfin moi je suis très fan de métal, de grunge, de rock alternatif, de cold wave, voilà un peu tous ces mouvements-là. Je pense que c'est un mélange de tout ça, c'est du punk, mais avec un futur. J'ai lu ça, merci Wikipédia, c'est une citation d'un musicien d'un groupe qui s'appelle Père Ubu. Et il disait à propos du post-punk, en fait, les Sex Pistols chantent nos futurs, mais il y a un futur et nous tentons de le construire, quoi. Je trouve qu'il y a un peu ça. Ouais.
Alors aujourd'hui, vous êtes deux avec nous en studio, je le disais, Ninon et Kevin, mais vous n'êtes pas que deux sur scène, vous êtes quatre.
Effectivement, on est quatre, on est accompagné par deux autres musiciens, donc Octave à la batterie et Charles à la deuxième guitare. C'est des musiciens qu'on a rencontrés dans les locaux de répétition, soit à Saint-Denis-de-Gâtine, soit au Grand Nord à Mayenne, ce qu'on répète maintenant au Grand Nord à Mayenne. Et en fait, c'est des gens qu'on a rencontrés et avec qui on s'est liés d'amitié et avec qui ça fonctionne très bien, quoi.
Alors comment ça se passe dans le groupe? Qui est-ce qui écrit les textes? Comment se passe aussi la composition musicale? Est-ce qu'il y a d'abord un texte qui arrive, puis la musique se greffe dessus? Est-ce que... Comment ça se passe?
On n'a pas encore vraiment trouvé d'organisation là-dessus. C'est encore en pourparler. Mmh. Les textes, c'est moi qui les écris, toujours en français. Beaucoup de ce qui me vient, des expériences vécues. Et puis, les gars composent pas mal, Kevin, à la maison, des fois.
Souvent, en fait, quand Ninon écrit un texte, moi, à côté, j'essaie de trouver une mélodie ou quelques accords et on essaie de que ça se combine, en fait. Et après, les gars rajoutent leurs pattes ou alors les gars ramènent une composition et on essaye de trouver un texte qui peut coller dessus, quoi.
Est-ce qu'il y a des influences musicales particulières? On a parlé de style musical, mais alors est-ce qu'il y a des artistes, des sons qui vous accompagnent depuis longtemps, dans lesquels vous avez été puisé pour composer les titres de The Elmas?
Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est Suzy and the Banshees. Vraiment, avec une femme lead chant, avec un charisme incroyable, un maquillage très reconnaissable parmi mille, et qui est vraiment une entité gothique incontournable dans les pays anglo-saxons. Moi, cette musique-là, elle a mis très longtemps à arriver vers moi. Je pense que j'avais une trentaine d'années. Donc, je trouve que ça fait long. Et ça a été une révélation. Réellement, ça combinait plein d'influences que j'aime beaucoup. Cette violence un peu du métal, mais avec la complexité des mélodies du post-punk, une rythmique tribale, parce que ça aussi, ça reste important. Et puis, toi ?
Moi, si je devais citer, je pense, une influence, ce serait quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps aussi, qui s'appelle The Idols, qui est un groupe anglais, qu'on a été voir à Paris d'ailleurs, où c'est pareil, la simplicité des mélodies et par contre la force rythmique du groupe est vraiment, je pense, ce qui nous motive aussi dans ce qu'on écrit, quoi.
Si on parle de votre musique, il y a dans vos morceaux, il y a une tension constante entre douceur et rage. C'est quelque chose que vous cherchez à cultiver, peut-être Ninon, puisque c'est présent dans les textes particulièrement.
C'est la dualité, non? Je crois qu'on est tous faits de ça.
C'est vrai.
La vie est faite de ça, nous aussi. Je crois qu'en tant qu'être humain, on met longtemps à accepter et à apprivoiser ce côté-là. Qu'il n'y a pas de sombre, il n'y a pas de lumière sans sombre et vice-versa. Hein, voilà. Et je pense que ça, c'est important. Ça rejoint plein de sujets. Hein. Je pense à la santé mentale, tout un tas de choses à normaliser, en tout cas une notion à normaliser pour moi et à discuter plus que c'est le cas actuellement. Quoi.
Ouais. J'imagine que c'est le cas pour l'ensemble des membres du groupe, mais Ninon, vu que c'est vous qui écrivez les textes, on ressent effectivement un engagement féministe très présent. Quel point ça compte? À quel point dans le paysage musical vous estimez que ça compte de porter cette parole-là aussi sur scène? Il faut sans doute l'amener un peu partout, mais là vous l'amenez sur scène.
Pour moi, c'est personnel dans un premier temps. Je pense que c'est passé par ça. C'est ça qui a été le vecteur de ce moyen d'expression. Et puis au fur et à mesure, même avant, pendant, après, tout le temps, on se rend compte que c'est personnel, mais que ça ne l'est pas. Les femmes qui ont vécu des expériences négatives dans cette société parce qu'elles sont des femmes sont légion. Donc je pense que c'est vraiment un sujet universel. Ce qui est sûr, en tout cas, sur le sujet musical, c'est qu'aujourd'hui, et ça ne concerne que nous, loin de moi l'idée de critiquer les groupes dont ce n'est pas le cas, mais le fait de pouvoir porter une voix en tant qu'artiste, c'est aussi pour y amener des convictions et prendre position. Pour nous, c'est incontournable, extrêmement important. C'est même du domaine d'une responsabilité, il me semble. Surtout quand on voit le contexte actuel.
Le féminisme n'est absolument pas qu'une affaire de femmes. Vous êtes entourée d'hommes dans ce groupe. Alors peut-être qu'aussi, c'est une manière entre vous de partager vos histoires, votre histoire en particulier, Ninon également, près d'hommes, et puis qu'ils vous aident à la faire vivre via la musique, via les notes qu'ils mettent derrière.
Et mais totalement, en fait, c'est une équipe d'hommes alliés qui sont en support. C'est extrêmement important. Et c'est aussi des discussions qu'on a pas mal, puisque pour l'histoire, Charles et Octave sont un peu plus jeunes que nous. Donc voilà, il y a du partage d'expériences et beaucoup de discussions qui se font autour des valeurs, du féminisme, de l'actualité, de nos engagements, de ce qu'on en pense. Et puis de nos déconstructions aussi, parce qu'en fait, je ne m'exclus pas du problème non plus du patriarcat, les garçons non plus, mais moi non plus. C'est quand même... En ça, que c'est particulier, le patriarcat, c'est que ça nous concerne tous et que du coup, la déconstruction, elle est permanente. Parce qu'en fait, quand tu penses que ça y est, c'est acquis, ben non, ça ne l'est pas. Il y a un petit truc de derrière les fagots qui va sortir
Et ce qui est intéressant là, dans ce que tu dis, Ninon, c'est que différence de génération, est-ce que du coup il y a différence de point de vue, des points de vue qui se confrontent? On a l'impression que la jeune génération, quoique dans les dernières études, pas forcément, la jeune génération est plus sensibilisée, plus active, plus proactive dans ces engagements-là, dans ce militantisme-là. Qu'est-ce que vous vous ressentez au sein du groupe?
Je suis pas sûre que Charles et Octave soient représentatifs de la jeunesse, encore que j'en sais rien, mais c'est mon regard. J'aimerais vraiment pouvoir dire ça. C'est pas ce que les statistiques amènent de ce que j'ai pu en voir. En tout cas, avec eux, c'est sûr qu'on a des idées communes et je trouve qu'ils ont cette faculté à être flexibles. Vraiment plus que nous à l'époque, en fait, et à questionner leurs pratiques, leurs pensées, leur environnement, enfin, ouais. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que ils sont, enfin, je trouve qu'ils sont vraiment très, 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 très matures. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour voilà, enfin, ils ont vraiment, je trouve,
une pensée qui est déjà,
une pensée qui est déjà, qui est déjà assez, ouais, assez avancée, même par rapport à nous, à leur âge, quoi.
Comment c'est de faire du rock indé, du post-punk depuis la campagne mayonnaise? Est-ce que le territoire justement influence votre musique, influence peut-être les textes? Est-ce qu'on peut en dire du féminisme en province, en campagne mayonnaise?
C'est bien déjà. On est ruraux et contents de l'être. Ouais. Ça, je pense que c'est indéniable. Oui, ça influence forcément la musique puisque... je pense que malheureusement, encore à l'heure actuelle, les clichés ont la vie dure, mais dans le milieu rural, peut-être que les esprits sont un peu moins ouverts sur un certain nombre de sujets, notamment celui du féminisme et bien d'autres. Hein, je pense au racisme, je pense à la communauté LGBT, enfin voilà, tous ces sujets-là. Donc oui, ça influence bien sûr ce qu'on vit, le contact direct de notre environnement et puis les relations qu'on a, ouais, son influence... première.
Qu'est-ce que ça représente la scène pour vous? On imagine forcément que pour du post-punk, du rock, la scène est déterminante et essentielle. Est-ce que c'est un moment d'exutoire? Est-ce que c'est là que les titres prennent vraiment vie? Est-ce que c'est peut-être aussi un moment où on se livre et où c'est une mise en danger? Comment vous décririez ce moment de monter sur scène pour vous?
C'est vrai que pour nous, la scène est hyper importante en fait, parce que c'est là où vraiment on va vraiment exprimer ce qu'on ressent et même ce qu'on ressent sur le moment présent. Voilà, chaque concert va être différent. C'est vrai que là on a enregistré un EP, mais l'EP du coup c'est figé maintenant. Ce qu'il y a dessus est totalement figé. Alors que quand on est sur scène, voilà, la musique elle peut bouger, elle peut évoluer suivant les humeurs et la forme de chacun. Enfin, du coup, c'est pour nous, enfin, en tout cas pour moi personnellement, c'est vraiment un exutoire en fait de monter sur scène. C'est quelque chose que j'attends à chaque fois.
Moi, je dirais aussi une mise en danger, mais qui est nécessaire, en fait. La musique, on l'a fait pour la partager. Et finalement, la façon dont elle est perçue, entendue, dont elle accompagne les personnes, est hyper importante. Je crois qu'il n'y a pas d'artiste sans public, en fait, réellement, quoi.
On vient de dire, donc vous venez de sortir tout juste, c'était en avril, un EP, donc de 4 titres. Quelle est l'identité de cet EP? Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire sur ces 4 titres? Comment s'est passé l'enregistrement? Comment est-ce qu'on choisit les 4 titres qui vont figurer sur un premier EP? C'est la première fois qu'on commence à présenter son identité à un public. Alors c'est à mon avis assez important, déterminant, ça prend du temps peut-être
Choisir, c'est renoncer, c'est ce qui me vient.
Ou choisir, c'est sublimer.
Ça aussi. Au dos de l'EP, je pense qu'il y a vraiment une maxime qui reste un peu la ligne directrice de l'EP. C'est la joie comme acte de résistance. En fait, je crois que le système dans lequel on vit nous veut déprimer, blaser dans
figer.
Une espèce d'impuissance acquise. Et nous, on n'est pas OK avec ça, quoi. Donc, l'EP, il se veut ambivalent, entre deux eaux, mais là, voilà. Et ça, c'est important, ouais.
Kevin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Pas vraiment.
Et ce que j'ai aussi envie de dire du groupe, en tout cas souligner, c'est qu'il y a une vraie esthétique, c'est-à-dire que l'image est travaillée. À quel point dans l'univers musical aujourd'hui ou dans ce que vous souhaitez construire avec The Elmas, cette image est importante, ajoute quelque chose à l'esthétique musicale? Qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire?
Sur l'image, en fait, alors Je vais dire que c'est aussi un défaut professionnel, parce que je suis graphiste de métier, donc forcément,
ça joue
un peu. Mais non, en fait, je pense qu'on était tous d'accord pour avoir vraiment une ligne directrice, que ce soit musicale et même visuelle, en fait. Qu'on ait vraiment une cohérence sur l'ensemble du projet et qu'on puisse être reconnaissable assez rapidement, en fait. C'est vraiment l'objectif. Et puis, c'est essayer de proposer quelque chose de beau, entre guillemets, aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent.
À qui s'adresse The Elmas ? À qui s'adresse votre musique ? Est-ce qu'il y a un public auquel vous pensez quand vous composez, quand vous écrivez ? Un public qui serait déjà peut-être dans le même état d'esprit, dans le même militantisme, engagement en tout cas ? Ou est-ce qu'on va chercher aussi ailleurs ? Est-ce qu'on s'adresse aux Mayennais, justement, qui n'est pas forcément toujours sensible à ces thématiques-là ? Je parle du Mayennais, mais c'est partout en France, partout en Europe, partout dans
carrément.
Le monde. Le Mayennais n'est pas isolé du tout.
Je crois que ça, c'est un peu le processus de création. Je ne suis pas certaine que tu crées pour le public. Je ne crois pas. Je crois que tu crées pour toi et tu crées ce qui te plaît, ce qui te semble bien. Et c'est ça qui doit te servir d'étalon, tu vois. Parce que si tu cherches absolument à plaire à quelqu'un, est-ce que ça va fonctionner ? Je ne crois pas. Et est-ce que tu vas rester dans ce que tu es vraiment, dans ton authenticité ? Ça me semble super compliqué. Donc en réalité, la musique, elle a celui qui se l'accapare, qui la prend. Une fois finalement que ton EP il est sorti, elle appartient aux autres, quoi. Et c'est ça qui est cool. Et j'en ai même un peu des frissons, tu vois, de me dire que potentiellement, il y a des gens qui ont des idées divergentes des nôtres. Pourquoi pas ? Au contraire, en fait. C'est comme ça qu'on fait société, qu'on se
rencontre.
Être un
espace de dialogue, un prétexte à créer de la discussion, un échange. Ouais.
Carrément.
Quelles sont les actualités de The Elmas, les projets d'avenir pour les mois qui viennent, un clip, un album, alors, où est-ce qu'on en est ?
Alors on va déjà commencer par les actualités, donc on a quelques concerts là qui sont prévus prochainement, on va jouer le 23 mai au Moulin de Coupeau à Saint-Berthevin, on a également un festival le 28 juin à Saint-Pierre-sur-Erve, que je ne me trompe pas, c'est pas Saint-Jean, c'est Saint-Pierre. Et on a également une date en juillet près de Rennes. Alors là, du coup, c'est un festival privé. Mais voilà, au niveau des dates, voilà notre actualité. On est en préparation de clip, voilà, pour un des morceaux de l'EP, justement, qu'on est en train de travailler avec une équipe qui est en train de nous faire un scénario et tout le projet, là. Donc... on espère faire ça dans l'année.
Si on veut suivre votre groupe, toutes les actualités, même à venir prochainement, si des nouvelles dates se greffent, etc., il y a un site internet, très joli.
Merci.
Donc on peut vous retrouver en tapant The Elmas, j'imagine,
c'est ça, ouais.
Très facilement.
Site internet, réseaux sociaux, enfin voilà. On est également sur toutes les plateformes de streaming.
Ne pas hésiter à aller écouter The Elmas, E-L-M-A-S. Alors on va écouter un titre avant de se quitter, No Sense. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce titre-là ?
No Sense, c'est vraiment la violence conjugale par excellence, hein, c'est clair. C'est le cri de rage que j'avais envie de dire. Voilà.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
On l'écoute tout de suite, donc No Sense de The Elmas.
Thank you.
un monde. Et si je pensais à ma pomme, être une femme dans un monde. Et si je pensais à ma.
La luzerne, une culture d'espoir pour préserver l'eau. Oui, face aux défis environnementaux, la culture de la luzerne pour l'alimentation animale s'impose comme une alternative durable. Alors, peu exigeante en intrants et bénéfique pour les sols, elle permet de réduire l'usage des pesticides et préserver la qualité des nappes phréatiques. La coopérative Daisy West s'engage à développer cette filière en augmentant les surfaces cultivées en luzerne, une transition portée par les agriculteurs ligériens et accompagnée par les experts de la coopérative. C'est notre reportage Pensée locale de la semaine, et c'est moi qui vous emmène à la rencontre de Samuel Maignan, directeur général de la coopérative Daisy West, située à Domagné dans le 35 et à Changé en Mayenne. Il nous aide à mieux comprendre les enjeux liés au développement de cette culture. Écoutez.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Face à la pollution des eaux par les intrants agricoles, la luzerne pourrait être une alternative. Peu gourmande en engrais et pesticides, elle séduit de plus en plus d'agriculteurs. Mais alors comment développer cette filière à grande échelle? C'est justement l'enjeu du projet porté par la coopérative Daisy West qui possède deux sites, l'un à Domagné en Ille-et-Vilaine et le second à Changé en Mayenne.
Samuel Maignan, je suis directeur général de la coopérative Daisy West. Nous sommes une coopérative qui est née de la fusion de la coopérative Copédom, qui était la coopérative de déshydratation de forage d'Ille-et-Vilaine, avec la coopérative Codema, qui était la coopérative de déshydratation également, basée en Mayenne. Quelle est l'activité première de Daisy West? C'est la conservation et valorisation des fourrages, essentiellement à base de luzerne. En complément, on a les activités de déshydratation de maïs, de riz gras. Et au fil des années, nous avons développé, en lien avec la transition énergétique de la coopérative, on a développé la production de granulés de bois, qui viennent compléter les activités saisonnières agricoles.
Est-ce que de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers cette culture-là, ou est-ce qu'il y a encore des freins et quels sont-ils?
On a toujours un mouvement de va-et-vient, hein, je dirais, au niveau de nos adhérents. On constate un changement de génération actuellement. Donc les parents étaient convaincus de la luzerne. On a souvent les jeunes qui reprennent et qui se disent « on va faire autre chose ». Et je dirais, ce qu'on constate actuellement, on a plutôt un retour vers la luzerne. Donc je dirais, le collectif a toujours raison, comme on dit, mais...
Avec Daisy West, on parle bien sûr de déshydratation de la plante. Alors, comment se passe ce processus et quels en sont les avantages?
Donc, pourquoi on déshydrate? L'objectif, c'est de conserver au mieux les qualités de fourrage sur pied. Le meilleur fourrage pour des vaches laitières, ça reste l'herbe pâturée, sauf que l'herbe ne pousse pas tous les mois de l'année. Il n'y a pas de pousse en hiver et l'été, on a une période sèche qui ne permet pas d'alimenter suffisamment le cheptel. La déshydratation, c'est une des techniques de conservation. Par contre, l'avantage de la déshydratation, c'est la seule technique qui permet de conserver l'intégralité de l'herbe ou de la luzerne sur pied. C'est-à-dire qu'on va conserver à la fois les valeurs alimentaires, que ce soit les protéines, les glucides, les macro-éléments, mais également les vitamines et les caroténoïdes grâce à la stabilisation du produit rapide. L'inconvénient de notre activité, c'est que l'on a besoin d'un apport d'énergie pour stopper tout phénomène de dégradation. Aujourd'hui, la coopérative a terminé sa transition énergétique puisqu'on est 100% en énergie renouvelable pour la partie thermique, avec des cultures énergétiques dédiées, la valorisation du bocage local et également sur l'usine de Changé où on valorise l'excès de chaleur de la boucle de chaleur de Laval Aglo.
On a pu le dire, la coopérative Daisy West se trouve sur deux sites, Domagné en Ille-et-Vilaine et Changé en Mayenne. Est-ce que ces deux sites produisent de la même manière?
Domagné et Changé, on produit la même chose, oui. On est simplement, bon, les usines n'ont pas le même âge et les technologies ont évolué et se sont adaptées, notamment sur celle de Changé. On a adapté l'usine pour pouvoir valoriser la vapeur qui est excédentaire à certaines périodes de l'année sur la boucle de chaleur de Laval.
En ce qui concerne ces questions de gestion d'eau et de limitation des intrants chimiques, est-ce que, d'après vous, il y a d'autres choses à développer ?
On essaye toujours d'aller plus loin sur la réduction des produits phytosanitaires sur la luzerne. Notamment, on poursuit des essais régulièrement pour réduire les doses, voire avoir des alternatives en désherbage mécanique de manière à se passer des produits phytosanitaires. Donc on a déjà fortement diminué, aujourd'hui on va jouer avec l'hygrométrie, etc., de manière à réduire au maximum les doses en deçà des préconisations et compléter par des alternatives mécaniques pour protéger au maximum la ressource en eau.
De votre point de vue, du point de vue de la coopérative, l'agriculture dans 10 ans, à quoi est-ce qu'elle ressemblera ?
Bonne question. On reste sur, je dirais, le Grand Ouest. Hein, l'Ivienne et la Mayenne restent des départements laitiers. Je pense qu'on va le rester, même si on constate une forte diminution de l'élevage, même dans nos régions. Se pose la question de la souveraineté alimentaire. Ce qu'on voit se profiler aujourd'hui, on a plutôt les élevages qui se spécialisent sur la production laitière. Et donc où les éleveurs sont très pointus à la fois sur la production animale, mais exigeant également sur la qualité de leur fourrage. Et quand on dit qualité des fourrages, c'est sensible également à la partie durabilité du système.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe, en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
C'était un reportage signé Margot Doucet pour L'Autre Radio. Vous écoutez l'Agité du local sur L'Autre Radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors dans quelques instants, on retrouve Soizic pour sa chronique Un autre écho de l'écho. Mais avant, Maxime, tu nous proposes un titre.
Et oui, on va écouter Oh oui de Satine, un son qui va vous donner une bouffée d'air ou de bonheur musical. C'est une musique à déguster, elle va vous satisfaire votre appétit sans jamais vous combler. Vous risquez de l'écouter en boucle. Ça régale.
Je sens ton petit clin d'œil à Soizic qui, il semblerait, nous parle de malbouffe aujourd'hui. Tout à fait.
Quelque chose a changé, mais je sais pas comment l'expliquer. Un je ne sais quoi, l'abeille est venue me piquer. Depuis tout est rose autour de moi, c'est plus la même. C'est plus la même, c'est plus la même. Je me sens bien, c'est bizarre, comme si tout n'était plus noir. J'ai même du mal à y croire, j'ai pourtant cherché ce qui allait pas. Comme un jour au soleil, je profite, c'est plus pareil. Est-ce que la vraie vie c'est ça? Je me sens bien, c'est bizarre, comme si tout n'était plus noir.
Soazic nous a rejoint en studio. Bonjour Soazic.
Bonjour Margot, bonjour tous et toutes.
Alors Soazic, chaque semaine vous attrapez l'actualité avec des pincettes bien affûtées, vous la regardez dans les coins sombres, vous la retournez, et cette semaine encore il semblerait que l'on ne soit pas sorti de l'auberge de la cupidité.
Mais oui Margot, encore un constat qui n'incite pas trop à espérer un monde respirable où l'attention portée au bien commun l'emporterait sur l'avidité de quelques-uns. Quand on mesure l'immensité du chemin à parcourir pour tenter de laisser une planète dans un état à peu près correct à nos enfants, et les décisions qui sont prises sur des sujets brûlants mais qui nécessitent un peu de courage politique, eh bien on reste pantois.
Mais de quoi voulez-vous donc parler, Soazic ?
Eh bien, figurez-vous que le mois dernier, avec 2 ans de retard, est parue la SNANC, Stratégie Nationale pour l'Alimentation, la Nutrition et le Climat, chargée d'articuler les politiques publiques autour de l'alimentation, et ce, pour garantir l'accès de tous à une nourriture de qualité, pour mieux informer le public ou encore renforcer la part du bio. Alors, au point de départ, la SNANC devait s'inscrire dans les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, mais bon, il aura fallu attendre 2 ans pour qu'un début de commencement voie le jour. Et parmi les nombreuses problématiques soulevées dans cette stratégie, il y a encore et toujours l'éternelle question : faut-il interdire la publicité pour les mauvais aliments pour la santé ? Alors on connaît bien sûr l'influence de la publicité sur les comportements de consommation. Sinon les entreprises ne dépenseraient pas 18 milliards par an dans leur propagande, et notamment sur les plus jeunes. On sait aussi qu'en 2024, 17% des 6-17 ans étaient en situation d'obésité ou de surpoids. Or, plus de la moitié des publicités que visionnent nos jeunes font la promotion de produits de piètre qualité nutritionnelle notés D et E au Nutri-Score. Alors bien sûr, le lien de causalité entre publicité pour des produits ultra transformés, gras, sucrés ou salés, bourrés d'additifs, et le surpoids, voire l'obésité, n'est donc plus à démontrer. Dit autrement, des entreprises qui ont complètement pignon sur rue, publicitaires et autres agroalimentaires, gagnent des milliards en empoisonnant à petit feu 20% de nos enfants, et ce, en toute impunité. Vous voyez qu'on ne joue donc pas dans la même cour que la Covid en termes de prévalence, qui était quasiment nul pour nos jeunes. Et pourtant, le gouvernement ne joue pas non plus dans la même cour au niveau des mesures sanitaires qui, elles, sont quasiment nulles. Alors en effet, figurez-vous que la publicité pour le poison infantile ne sera finalement pas interdite, mais que les empoisonneurs, dans leur grande sagesse, devront s'auto-réguler. Formidable. La SNANC propose ainsi de, je cite, « réduire efficacement l'exposition des plus jeunes à ces produits via une charte de bonne conduite élaborée sous l'égide de l'ARCOM et l'autorité de régulation des médias ». Parce que voyez-vous, le problème est double. Il y a en effet un problème de santé publique que personne ne nie, hein, pas même les empoisonneurs, mais il y a en face la question des recettes publicitaires. Et là, pas touche aux sous-sous. Alors logiquement, parmi les opposants à la régulation, il y a les publicitaires et les industriels de l'agroalimentaire, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le ministère de la Culture, qui anticipe sur ce manque à gagner pour les médias, s'oppose également à toute régulation coercitive. Finalement, c'est « touche pas à ma pub » à tous les étages.
Ça signifie-t-il qu'il n'y a donc aucune issue ?
Et pourtant si, parce que la publicité a des effets contradictoires pour les entreprises elles-mêmes. Fabrice Etilé, économiste à l'École d'économie de Paris, nous explique que, paradoxalement, la compétition entre entreprises est très délétère parce qu'elles se retrouvent, ces entreprises, enfermées dans une course à l'échalote en termes d'effort marketing et qu'elles sont obligées de renchérir sur la dépense publicitaire du voisin. C'est un cercle vicieux sans fin qui leur coûte, in fine, de plus en plus cher. Par ailleurs, nous explique toujours cet économiste, cet effort publicitaire global et sans fin va bien sûr contribuer à accroître le marché et que les gens, notamment nos jeunes, vont boire et manger encore plus de sucre, de sel et de mauvais gras. Une régulation permettrait donc moins de dépenses marketing pour les entreprises et une meilleure santé pour le consommateur. Tout le monde y gagnerait. C'est par exemple ce qu'a décidé de faire l'Angleterre. En effet, depuis octobre dernier, la publicité pour les aliments de mauvaise qualité nutritionnelle y est proscrite jusqu'à 21h à la télé et de façon permanente dans les contenus sponsorisés en ligne. Alors pour en revenir au début de ma chronique, quand on se rend compte que les gouvernements préfèrent sacrifier 20% de leur jeunesse par pure cupidité et lâcheté politique, je ne sais pas vous, mais moi ça me laisse plus que dubitatif sur le courage politique nécessaire à l'entretien de la planète. Pour l'instant, c'est la cupidité qui mène le monde, Margot. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle n'en soit pas le fossoyeur.
Merci beaucoup, Soizic. À très bientôt. L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à Ziel Mas d'être venu en studio avec nous aujourd'hui. Merci à Soizic. Merci Yann, Titouan et Maxime. Alors qu'est-ce qu'on écoute, messieurs, cet après-midi sur l'autre radio ?
Eh bien, il semblerait que la soirée commence avec Novorama.
Et oui, à 19h, restez bien à l'écoute. Novorama, c'est le rendez-vous des oreilles curieuses. Chaque semaine, une sélection soignée de pépites indie rock, pop ou électro, des chroniques aux petits oignons, une interview d'un artiste ou groupe émergent à découvrir avant tout le monde.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Alors, le direct ne sera pas à midi 15, mais 18h15. Et nous serons en direct du village des Trois Éléphants, promenade Anne d'Allègre. Soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, bah, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.